J'aimerais faire deux ou trois remarques d'introduction concernant cette méthode. Tout d'abord, il est souhaitable que, dans la mesure où maintenant vous participez à cette heure de travail ensemble et où vous avez entre les mains un document que vous allez pouvoir garder, il est souhaitable que vous ne photocopiez pas ce document pour le transmettre sans explication. Ce ne serait pas sage. Ce document est un élément dans un ensemble pédagogique, n'est-ce pas, d'enseignement. Si vous pouvez vous asseoir un jour à côté de quelqu'un qui veut creuser et que vous avez mis en pratique vous-même déjà cette méthode, et que vous pouvez donc parler avec lui, étudier le texte avec lui, oui. Mais si c'est pour mettre ça dans une enveloppe en disant, tu sais, voilà une méthode, ça t'intéressera peut-être, je crois que ce n'est pas recommandable. Vous comprendrez d'ailleurs vous-même pourquoi, au fur et à mesure que nous allons avancer dans les explications. Je mets en introduction, vous l'avez sous les yeux, le début d'élaboration de pratique de cette méthode remonte à janvier 1977. J'explique habituellement brièvement les circonstances qui m'ont amené à la découverte en quelque sorte de cette forme d'approche. J'avais l'habitude depuis pas mal d'années déjà d'étudier systématiquement les écritures, mais j'en étais arrivé à un point personnel dans mon service pour le Seigneur, où je souffrais profondément d'un sentiment de surplace, de stagnation, le sentiment de sécheresse. Même quand j'étudiais la Bible, j'avais l'impression qu'il y avait un blocage à quelque part et que j'avais besoin d'aller plus loin dans cette rencontre avec Dieu par les Écritures. Ce qui fait que dans les derniers mois, de décembre de l'année 76, dans ma vie de prière personnelle, j'ai dit à Dieu ma préoccupation. Je lui ai dit, écoute Seigneur, je suis mal à l'aise, tu vois, j'ai un ministère, j'enseigne, j'ai la responsabilité avec d'autres d'une vie d'église, et je ne peux pas vivre ainsi dans ce sentiment de sécheresse. J'aimerais vraiment que tu me renouvelles dans mon approche des Écritures. Et puis, vous savez, commencer la fin de l'année et le début d'une nouvelle année, c'est le temps des résolutions, on aime repartir sur un bon pied. Et j'avais dit, écoute Seigneur, j'aimerais tellement que démarrer l'année 77 avec quelque chose qui m'aide dans mon approche personnelle des Écritures. Puis les 15 premiers jours de 77 se sont écoulés sans que cela change. Et je vivais une espèce d'angoisse intérieure en me disant, te voilà reparti, là, dans cette année, vivant une certaine sécheresse. Et c'est devenu vraiment un besoin oppressant dans mon cœur de recevoir de la part de Dieu une réponse à un besoin personnel. Et c'est aux alentours du 15-16 janvier 77 que, dans ma vie de prière, liée à ma méditation personnelle des Écritures, un matin, alors que j'étais là, dans la présence de Dieu, clairement, Dieu m'a conduit, intérieurement, très fortement, je dirais, vers cette forme d'étude. Ça a été, je dois dire, un cadeau de sa part, en quelque sorte. Bon, je savais qu'on pouvait faire un tas de choses à partir de fiches, mais enfin, je n'avais jamais pensé pouvoir étudier la Bible de cette manière. Et je dois dire, ce qui était intéressant, c'est que ce matin-là, non seulement je recevais en quelque sorte comme cadeau une sorte de méthode, si on veut, mais aussi les possibilités d'utilisation de cette méthode à long terme. C'est-à-dire que maintenant, je vois finalement la réalisation de ce qui était en germe à cette époque, ce matin-là. Et j'ai donc commencé, simplement, à partir de ce jour-là, comme on va le voir, à mettre sur fiche le texte biblique, d'une certaine manière. Et je dois dire que ça me passionne, je suis très heureux de pouvoir étudier la Bible de cette manière, et je me suis rendu compte peu à peu que, en fait, je n'avais fait que retrouver pour ma vie personnelle quelque chose qui faisait partie d'une des formes pédagogiques d'approche des Écritures au sein du judaïsme, par exemple, ou comme je le laissais entendre hier soir, l'écriture de l'écriture avec une place beaucoup plus importante que dans nos concepts, dans notre culture. Alors, le fichier, bien sûr, a évolué. État actuel, c'était en 80, il y avait environ 4000 fiches. Maintenant, donc, je suis à 13500 fiches, dont une partie sont des fiches, comme nous le verrons dans la conclusion, parabibliques, péribibliques, mais une grande partie de ce fichier sont des fiches d'analyse du texte biblique proprement dit. Je suis en ce moment dans l'Épître aux Romains, à Romains 9, et je dois dire que ça, même l'étude de l'Épître aux Romains a été bouleversante pour moi, simplement par ce type d'approche. Alors, premier chapitre important, conditions à remplir pour une bonne pratique. Je l'ai souligné hier soir, nécessité d'une bonne connaissance biblique globale de base. Une lecture cursive systématique, je vais expliquer ce que c'est, de la Bible aura été pratiquée pendant plusieurs années au préalable. Lecture cursive, c'est-à-dire lecture dans le cours du texte, dans le courant, n'est-ce pas ? Nous allons en parler, et ce soir, mais en tout cas sur demain matin, l'importance d'approcher la Bible comme on lit un roman. Il faut aussi apprendre à lire la Bible de cette manière. Je ne dis pas que la Bible est un roman, hein, mais qu'il faut savoir la lire comme on lit un roman historique. C'est-à-dire concevoir que la Bible n'est pas une espèce de collection de textes disparates, mais une histoire. Elle est d'ailleurs pour l'Ancien Testament l'histoire du peuple juif. Les manuels d'histoire du peuple juif en Israël comportent toute une partie qui s'appelle l'Ancien Testament. Et ça, c'est une chose que nous avons parfois de la peine à saisir, là encore dans notre culture. Alors que nous utilisons aussi des manuels d'histoire dans l'enseignement, n'est-ce pas ? C'est l'histoire d'un peuple. Et il importe donc que nous ayons une approche de la Bible qui soit une approche globale. Hein, comme les essuie-glaces se promènent sur un pare-brise continuellement, nous devons nous promener dans les Écritures d'un bout à l'autre en permanence. De manière à acquérir un certain nombre de notions très importantes pour un équilibre personnel et ecclésial. D'autres méthodes, je continue, d'approche auront été expérimentées, telles que, nous allons le voir, dimanche après-midi, coloriage, soulignage, encadrement, code alphabétique, symbole, etc. Tout ce que Dieu peut nous donner. Je vous donnerai un certain nombre de suggestions avec polycopie à l'appui, mais on peut inventer. Je vous montrerai comment certains amis ou certains stagiaires, à partir d'éléments qui leur ont été donnés, ont adapté en fonction du milieu dans lequel ils travaillent, etc. N'est-ce pas ? Mais l'essentiel, c'est d'avoir certaines méthodes. Deuxièmement, se souvenir que toute méthode doit être adaptée aux dimensions de l'utilisateur. Dans le fond, c'est ce que je viens de dire à l'instant. On le verra pour cette méthode-ci, on le verra dimanche. Il faut éviter d'être trop rigide dans ce domaine. Pour moi, peu importe les méthodes, l'essentiel c'est d'en avoir. Il faut un minimum de méthodes. Lorsque le juif se balance d'avant en arrière et de droite à gauche en lisant et en psalmodiant, c'est une méthode. Et c'est une méthode qui est reconnue en Israël. On sait que la mémorisation des textes bibliques et donc des textes de l'Ancien Testament est favorisée par le mouvement du corps. C'est un fait. C'est pas tout à fait gratuit ou une mode quelconque. Ça appartient à une méthode qui est reconnue, n'est-ce pas ? Comme il existait en Israël de tout temps quantité d'autres méthodes, y compris dans la composition des psaumes, les psaumes acrostiches, les psaumes alphabétiques. C'est fantastique de voir que Dieu a prévu un tas de possibilités pour aider les hommes à pouvoir approcher sa parole de manière pratique. Et nous sommes, par certains côtés, hyper logiques, dans notre culture, et d'un autre côté terriblement illogique et terriblement abstrait. Et nous avons beaucoup à apprendre, dans notre Europe occidentale et surtout dans notre imprégnation de culture hellénique, si on veut, n'est-ce pas, nous avons beaucoup à réapprendre dans le domaine pratique, et notamment dans ce domaine-là. Piège à éviter, troisièmement, viser le nombre de fiches au détriment d'une soigneuse élaboration de chaque fiche. Ce que j'ai écrit là, je l'ai écrit parce que, si vous voulez, ça a senti le roussi dans ma propre vie. Vous savez, un papier comme celui-ci, c'est le reflet de l'expérience de celui qui a fait le travail. Et je me suis rendu compte que le danger, c'était la compétition. C'était de vouloir élaborer le plus de fiches possible. Et qu'on risquait de passer à côté d'un aspect de la pédagogie voulue de Dieu pour une bonne formation biblique lorsqu'on veut aller trop vite. C'est une méthode volontairement artisanale dont la rentabilité augmente avec le temps et l'expérience de sa pratique. Même si mon fichier venait à disparaître, j'aurais beaucoup appris. Je note ceci parce que c'est la question que Dieu m'a posée. À plusieurs reprises, dans mes rencontres personnelles avec Dieu, Dieu m'a dit, mais dis, si ton fichier disparaissait en fumée, est-ce que tu considérerais que ce que tu as fait est utile ou non? Ou bien est-ce que tu aurais le sentiment d'avoir perdu ton temps? N'est-ce pas? Il faut se poser ces questions. Et là, honnêtement, j'ai pu dire, Seigneur, je te bénis, parce que si mon fichier venait à disparaître, j'ai tellement appris simplement en faisant le travail. Au moment où je copie mes fiches, où je réfléchis comment on va le voir ensemble, tu me parles, tu me fais du bien, j'apprends un tas de choses qui sont là dans mon être intérieur. C'est pas desséchant, c'est pas simplement de la pure technique. Je ne veux pas être une espèce d'ordinateur. D'ailleurs, un cher ami qui, il y a déjà 20 ans, était un des pionniers dans le domaine des ordinateurs et travaillait dans une grande entreprise en tant que croyant dans l'informatique, m'avait dit, écoute, pourquoi est-ce que tu n'utiliserais pas l'informatique? Et il m'avait fait toutes sortes de suggestions. Je lui ai dit, tu sais, non, je ne veux pas utiliser l'informatique parce que je vais court-circuiter le temps de Dieu. Il faut prendre son temps dans certains domaines. Il faut pouvoir réfléchir. J'utilise l'ordinateur. J'utilise l'ordinateur pour du traitement de texte, pour écrire des articles, préparer des bouquins, etc. N'est-ce pas? Mais je me verrais mal utiliser l'ordinateur pour ça. Parce que j'ai besoin de pouvoir tranquillement former mes lettres, réfléchir à ce que je fais, consulter mes fiches sous les yeux, etc. N'est-ce pas? Il y a là toute une pédagogie dans laquelle il faut prendre du temps. Mieux vaut prendre un quart d'heure et faire une fiche, comme on le verra, et que Dieu nous parle dans ce qu'on fait, que vouloir beaucoup avancer. Voilà donc quelques conditions à remplir pour une bonne pratique. Deuxièmement, des suggestions quant au matériel nécessaire. Alors, j'ai volontairement essayé de proposer le matériel le plus simple possible, tout simplement parce qu'il m'est arrivé de proposer cette méthode en Afrique aussi, ou aux Antilles, dans des écoles bibliques où on n'a pas les moyens qu'on a ici, n'est-ce pas? Bon, alors chacun fait selon ses possibilités. Alors, tout d'abord, première possibilité, des fiches Bristol, ou du carton, enfin ce qu'on peut avoir pour nous des fiches Bristol, quadrillées, de petits formats. Vous voyez, j'en ai là en quantité, j'en ai avec moi. Voilà, la petite fiche, elle n'existe pas sous ce format en France. Elle existe presque sous ce format en Suisse, en Belgique, mais pas dans notre pays. Ça, c'est 7 fiches grand format, enfin, format classique hein, qu'on trouve par pâté de 100. Il y a 2 petites fiches, vous voyez, c'est la même largeur, diminuée de 2 carreaux complets. Je ne dis pas ceci gratuitement ou par esprit maniaque. Bien sûr, vous êtes libre, si vous utilisez cette méthode, de faire autrement. Mais je dis ceci parce qu'il faut commencer par réfléchir aux dimensions de la fiche, pour plusieurs raisons. Et tout d'abord, parce qu'il y a un but pédagogique aussi. Plus vous avez une grande fiche, plus vous êtes tenté d'écrire. Et plus vous êtes tenté de diluer votre pensée.
Or, le but, c'est, vous allez le voir, c'est d'écrire le minimum, généralement un verset, et de commenter une seule idée de ce verset. Voyez ? Donc, on est obligé d'être plus concis, de réfléchir à ce qu'on va mettre, parce que de toute manière, on n'a que le recto verso. La deuxième raison, c'est qu'il faut pouvoir éventuellement transporter ces fiches. Déjà, les caser dans un fichier. Alors, je vais proposer un fichier tout à l'heure. Là aussi, quelque chose qui soit pratique, on peut le fabriquer, on peut l'acheter, mais vous savez que les fichiers sont très chers. Quand on veut acheter des boîtiers métalliques, ça revient assez cher, et plus un fichier augmente, plus ça coûte cher. Bon, alors là aussi, il faut réfléchir. Alors, j'ai remarqué, par exemple, que certains amis choisissaient n'importe quelle taille de fiche, parce qu'ils disaient, ce que dit Maurice Decker, c'est son idée à lui, moi je vais faire autrement. Et puis au bout d'un certain temps, ils étaient coincés. Parce qu'ensuite, ils ne trouvaient pas, par exemple, les boîtes dans lesquelles ils pouvaient mettre leurs fiches. C'est tout simple, mais il faut y penser, n'est-ce pas? Alors, il vaut mieux essayer de réfléchir ces choses avant. Donc, petite fiche de ce genre, ça c'est donc un format qui est noté ici, 10 x 7. On peut monter un peu, mais très peu si on veut, dans certaines boîtes, pouvoir fermer, n'est-ce pas? Et puis, pour la largeur, on peut élargir légèrement, mais comme ça, c'est un format commercial, c'est pratique, il n'y a pas besoin de tailler de tous les côtés. Ou à découper, donc, soit à acheter, soit à découper soi-même dans de grandes feuilles, ou à faire tailler au massico. Cavalier métallique de divers formats, avec et sans fenêtre pour le classement alphabétique. Ça, ce sont ces cavaliers, vous savez qu'on achète ça en boîte. Ceci, c'est pour les lettres principales A, B, C, D. Ceci, c'est pour les lettres intermédiaires, c'est-à-dire D, A, D, E, D, I, D, O, D, U. Vous voyez ce que je veux dire, hein, dans un alphabet. Et si vous voulez pouvoir subdiviser votre fichier pour trouver plus rapidement, il faut pouvoir avoir ces petites indications intermédiaires, c'est-à-dire la deuxième lettre de la syllabe du mot-clé dont on parlera tout à l'heure. Alors c'est très pratique, ça circule. Alors il y a également, on vend l'accordéon, vous savez, des lettres déjà imprimées quand on ne veut pas le faire soi-même. Ensuite, boîte en bois ou métallique. Choisissez d'abord les boîtes avant de fixer avec précision le format des fiches. Je vous le dis parce qu'un certain nombre d'amis ont fait les choses à l'envers et l'ont regretté. Alors personnellement, j'ai toujours des boîtes à gâteaux. Nous avons été en Bretagne, vous savez, il y a des petits biscuits très bons au beurre de Bretagne qui ont une capacité de 500 fiches à peu près. J'ai remarqué qu'on en trouve encore en Alsace parce qu'on m'a offert l'an dernier à peu près une dizaine de boîtes dans une famille qui savait que j'utilisais tout cela. C'était des boîtes vides, rassurez-vous. Mais la brave sœur dans la maison qui m'accueillait, ou pour une série d'ailleurs, est allée fouiller dans toute sa maison pour trouver toutes ces vieilles boîtes. Et je suis reparti avec un contingent de boîtes de biscuits. Bon, d'autres les fabriquent. Je pense à une demoiselle agent de la Ligue pour la lecture de la Bible en France, qui maintenant est à Frutigen, à la mission suisse du disque, qui a été missionnaire à Madagascar, et qui a donc suivi ce cours avec moi, et elle avait un frère, elle a toujours un frère d'ailleurs qui était menuisier, bon, elle lui a fait commande, et il lui a donc fabriqué son fichier sur mesure. Alors quand on sait bricoler, et qu'on a le matériel, on fait son fichier soi-même. Voilà, élaboration d'une fiche, il faut avoir une bonne Bible de travail, bonne version. Pour ce genre d'activité, il est recommandé, si possible, d'avoir une bonne Bible d'études. À mon avis, actuellement, en français, la meilleure Bible d'études, c'est certainement la fameuse Bible à la colombe, c'est-à-dire la version second révisée, qui, vous savez, a donné 25 années de travail à l'équipe qui nous a fourni la traduction. Et il faut reconnaître que c'est un texte absolument remarquable. Là, la Tobe est excellente en ce qui concerne le Nouveau Testament, et elle est pratiquement à peu de choses près équivalente. Je trouve que par rapport au texte grec, c'est un texte remarquable. L'Ancien Testament est déjà beaucoup plus inégal. Et puis alors, vous avez, bien sûr, le problème des notes de la Tobe qui sont vraiment, vraiment catastrophiques à bien des égards. Mais le texte lui-même, pour le Nouveau Testament, est remarquable. Alors c'est bon d'avoir donc une bonne Bible de travail, plus, si possible, d'autres versions, d'autres transcriptions. J'ai voulu entendre la transcription d'Alfred Kuhn, qui n'est pas tout à fait une traduction, n'est-ce pas, puisqu'elle est un petit peu comme l'oignon qu'on épluche couche après couche, pour essayer de rendre toutes les nuances possibles des termes des originaux. Étant donné que notamment le grec est une langue d'une richesse, n'est-ce pas, quand vous pensez qu'un terme grec peut avoir dans certains cas 100 significations différentes, en fonction de sa position dans la phrase, en fonction des prépositions utilisées, etc., n'est-ce pas, il y a quantité de facteurs, y compris dans sa signification propre, n'est-ce pas. Alors on comprend que ce ne soit pas toujours évident, d'ailleurs pour les traducteurs. Donc là, c'est intéressant d'avoir en tout cas la transcription d'Alfred Kuhn et une ou deux autres versions, mais qui bien sûr ne seront pas des versions de même catégorie. Si vous prenez une autre, si vous avez sous les yeux une version littéraire et que vous prenez une seconde version littéraire, vous allez dans le même sens. Il faut prendre deux versions qui soient suffisamment différentes. Si vous avez d'un côté une version qui est très littéraire, comme la Synodale, par exemple, qui est un peu dépassée maintenant dans son style, il vaut mieux avoir une version très littérale à côté, comme Darby, par exemple, qui tout en étant, comme on dit, archaïque, nous dirions vieillotte, dans l'utilisation de ces termes, a l'avantage de coller au texte original, au point que c'en est imbuvable parfois. Mais enfin, ça c'est un autre problème. Voyez donc, mieux vaut avoir deux ou trois versions simplement, mais qui soient très différentes les unes des autres, pour mieux saisir les richesses, que deux ou trois versions qui soient trop proches les unes des autres. Oui ? Eh bien, Scofield, si vous voulez, Scofield n'est pas une version. Scofield, en réalité, c'est le texte de la version seconde revue 1975, c'est-à-dire l'équivalent de la Société de Genève, vous savez, de l'Action biblique, si vous voulez, qui a été faite un petit peu avant que ne paraisse la Bible à la Colombe. Alors, elle est meilleure que l'ancienne seconde 1910, la classique, mais elle est moins bonne que la Colombe, parce qu'elle touche à beaucoup moins de textes, ce n'est pas une refonte générale, mais une amélioration du texte de la 1910. Scofield, en fait, ce sont les notes qui font la différence, simplement. Scofield peut être intéressant dans ce sens que, les notes sont comme toutes les notes, ce seraient les notes Maurice Decker, ce serait exactement la même chose. Ce sont des notes discutables dans certains domaines, mais qui ont beaucoup de valeur dans d'autres, pour certaines, et qui peuvent être suggestives quand, notamment, on remplit certaines fiches. Elles peuvent nous ouvrir l'esprit dans une direction que l'on ne soupçonnait pas. L'essentiel, c'est de faire attention de ne pas adopter Scofield aveuglément, comme de n'accepter aucune autre note aveuglément. Mais c'est vrai que ça peut être un bon support si on a suffisamment de maturité. Tout est là. Voilà, jusqu'ici, donc texte hébreu ou grec, si possible pour les initiés, mais voyez, rien n'est obligatoire. Rien n'est obligatoire dans ce domaine. Un ou deux bons commentaires, et j'ai ajouté quand ils existent. Parce que vous savez que pour certains livres de la Bible, nous manquons encore de bons commentaires, et pour d'autres, nous avons des commentaires qui sont parfois peut-être très bien, mais qui dépassent le bonnet de certains, qui sont trop hermétiques. Et c'est un peu regrettable. Il faudrait que nous ayons des commentaires solides, mais qui veillent quand même à ne pas être trop rebutants. Là, on a un manque actuellement en France. Surtout pour l'Ancien Testament. surtout pour l'Ancien Testament. Et en 81, puisque ça a été fait en 81, c'était bien pire. Depuis, ça a beaucoup évolué. Voilà, ne prenez pas trop de commentaires. Pour certains livres du Nouveau Testament, on est plus riche qu'avant, n'est-ce pas? Et on pourrait facilement travailler avec 3, 4, 5, 6 commentaires sur certains livres en particulier. Écoutez, moi je les trouve intéressants. Le problème, c'est le fait qu'ils sont dans un vieux français remanié. On l'a remanié pour qu'il soit plus accessible, mais enfin, on n'a pas pu le retoucher à fond parce qu'on modifierait carrément, n'est-ce pas, le cachet de l'original, et on ne veut pas le faire. Et puis, il faut quand même se souvenir que, dans certains domaines, les principaux réformateurs ne sont pas allés jusqu'au bout de la réforme. Et que, notamment en ce qui concerne l'Église locale et les ministères, ils sont très en retrait par rapport à nos conceptions tels que nous les découvrons dans le Nouveau Testament. Je veux bien être calvinien ou calviniste, on utilise les deux appellations dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Et bien sûr, leurs ouvrages transpirent leur position de l'époque et leur arrière-plan religieux de l'époque, n'est-ce pas? Donc là encore, il faut une certaine maturité pour ne pas mettre n'importe quoi sur nos fiches. Mais ceci dit, on peut les utiliser tout à fait. Voilà, donc choisissez plutôt un bon commentaire. Ça dépend de la capacité de chacun. Certains peuvent travailler avec un tas de bouquins à la fois, d'autres ne peuvent travailler qu'avec un ou deux livres. Là encore, il faut que chacun se sente à l'aise. Celui qui ne peut travailler qu'avec sa Bible et un autre livre comme commentaire, qu'il travaille avec cela. L'essentiel, c'est de travailler dans nos dimensions personnelles, n'est-ce pas? Dieu veut que nous apprenions à vivre dans nos limites. Et c'est important, parce qu'on est heureux quand on travaille dans ses limites. N'est-ce pas? Voilà donc deux premiers points. Donc vous avez raison, si vous avez ici et là des petites questions, n'hésitez pas à les poser en cours de route, bien qu'un certain nombre de réponses soient données, mais je vous le dirai. Hein, si telle ou telle réponse est donnée plus tard, je ne répondrai pas directement. Et nous arrivons donc au processus d'élaboration des fiches. Premièrement, je choisis le livre biblique à mettre sur fiche. Commencez de préférence par un livre court et facile pour bien roder la méthode. Vous pouvez commencer par un psaume. Si vous connaissez bien le psaume 23, on commence par quelque chose que l'on a serré dans son cœur, qui nous a fait du bien, n'est-ce pas, pour éviter le maximum d'obstacles. De manière à être encouragé, je crois que là, il faut agir avec bon sens. Si vous choisissez l'Épître aux Hébreux ou le Lévitique ou l'Apocalypse, il est évident que ce sont déjà des livres d'une approche un peu particulière. Si de surcroît vous devez tâtonner dans la mise en pratique de la méthode, vous accumulez les difficultés. Bon, moi j'ai toujours beaucoup aimé la première Épître de Jean. J'ai commencé par la première Épître de Jean parce que c'était un texte qui m'a toujours beaucoup passionné, n'est-ce pas? Donc vous choisissez. Et de préférence, un livre court ou un psaume pour pouvoir bien être encouragé. Deuxièmement, je lis le premier chapitre plusieurs fois pour avoir une bonne vue d'ensemble. Je précise dès maintenant, comme nous le dirons dans le cadre de notre enseignement général jusqu'à demain, cette méthode fait du livre, n'est-ce pas, et au contexte le plus proche, c'est-à-dire des versets qui précèdent et qui suivent. Et dans ce sens, c'est ce que j'apprécie en travaillant de cette manière, parce que si vous ne tenez pas compte du contexte, vous allez, en avançant dans le texte, devoir déchirer la carte que vous venez de faire. Vous allez vous rendre compte dans la suite du texte que vous êtes en porte-à-faux. Et c'est aussi la raison pour laquelle, pour utiliser cette méthode, il faut avoir déjà une vision générale des Écritures. Parce qu'il y a toutes les suggestions, à partir du texte que vous êtes en train d'étudier, il y a toutes les suggestions qui vous renvoient à d'autres textes des Écritures. Vous savez que c'est ça, hein, quand on lit un texte de la parole de Dieu et qu'on est imprégné, ce texte fait surgir dans notre cœur et dans notre mémoire une quantité d'autres passages qui vont dans telle ou telle direction. Et ça, c'est très utile quand on va mettre des passages sur fiche, voyez. D'où la nécessité d'avoir déjà une bonne connaissance de la pensée de Dieu tout au long de l'ensemble des Écritures. Troisièmement, j'analyse le premier verset, donc bien sûr du premier chapitre, longuement. Donc vous avez compris le principe, hein? On démarre au chapitre premier et au verset premier, et on finit au dernier verset du dernier chapitre. Là, c'est la logique la plus simple qui soit, n'est-ce pas? Alors, quelle va être cette analyse? Alors, je vais déjà vous donner un avant-goût, n'est-ce pas? Voilà une fiche. Voilà une fiche. Peut-être qu'en la photographiant, vous allez mieux comprendre déjà le début du point A. Je cherche le premier mot à inscrire comme mot-clé sur une première fiche. Voilà une petite fiche, hein, de ce format, vous l'avez ici. Le mot-clé, bien entendu, il est ici, là-haut, hein, à gauche. C'est le mot métier. Ça, c'est un mot-clé. Alors, on va voir comment on va faire pour le chercher. Comment est-ce qu'on va le découvrir? Alors, là, c'est une analyse d'un texte qui a été un des textes clés de ma série d'études au Geisberg ce week-end dernier. Hein. Donc, Daniel 1, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par l'aîné du roi, par le vin dont le roi buvait, etc. Alors, premièrement, ce mot est effectivement contenu dans le verset étudié. C'est une possibilité. Vous remarquez qu'ici, le mot clé n'est pas dans le verset. Je ne sais pas si dans la suite, non, il n'y est pas. À moins que, si, attendez, oui. Voilà la seconde. La seconde fiche. Je vais la monter pour que vous en profitiez. On va laisser celle du bas. Vous remarquez ici que le terme serviteur est dans le texte, il est aussi un mot-clé. Vous ne vous inquiétez pas maintenant pour cette petite partie-là, mais vous remarquez, hein, ici, le mot se retrouve en mot-clé. Donc, premièrement, ce mot est effectivement contenu dans le verset étudié. Maintenant, il se peut, c'est le cas du haut, deuxièmement, ce mot n'est pas dans le texte de la version utilisée, c'est même pas le cas là, mais il figure dans une autre version que je consulte en même temps. Vous savez, ça c'est la richesse des versions. C'est que le même texte, le même verset, est rendu un peu différemment dans une autre version, et c'est un autre mot qui va être utilisé. Bon, je vous donne un cas. Vous l'avez ici. Bon, je ne l'ai pas ici sur cette fiche, mais on aurait pu mettre un autre texte. Daniel a lu. Daniel résolut de ne pas se souiller par l'aîné du roi. Le texte hébreu laisse entendre qu'on devrait très exactement traduire, et il me semble que Darby a traduit, personne n'a ici la version Darby, non? Le texte dit « Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller ». Il y a donc le mot « cœur » qui est un mot essentiel dans les Écritures. Pratiquement 1000 fois dans l'ensemble de la Bible. C'est un des mots clés des Écritures. Il ne figure pas dans la version à la colombe, peut-être pas dans la synodale ou dans d'autres, mais je crois que dans la Darby il figure. Et je ne sais pas si dans certaines versions il n'y a pas une note en bas de page qui dit littéralement dans son cœur. Vous voyez ? Alors, on peut mettre le mot-clé, et j'ai effectivement dans ma série de fiches, vous voyez, sur Daniel 1.8, j'ai une fiche avec le mot-clé « cœur ». D'après ce fait, Daniel prit à cœur, d'ailleurs j'ai mis « second révisé », donc dans la second révisée, il doit être dans le texte, il y est, vous voyez ? Il est en note, hein ? Voyez, et j'ai mis d'ailleurs en rouge, et j'ai mis entre parenthèses une petite indication « SR, second révisé ». Voyez ? Donc voilà une seconde possibilité. Ensuite, troisièmement, ce mot n'est dans aucun des textes d'aucune des versions. mais je le choisis parce qu'il exprime clairement une idée, un message, une affirmation, etc., contenu dans le verset. C'est le cas là-haut. Quand j'analyse Daniel 1:8, je réfléchis, je me pose des questions, comme dans toute étude de la parole de Dieu. Quelle est la situation dans Daniel 1:8? Il faut faire preuve d'un peu d'imagination, de sens pratique. C'est la situation d'un jeune homme qui a 18 ans, grosso modo, qui est en train d'étudier et qui a affaire à un patron, à un supérieur. C'est son chef. Et il a donc des relations avec lui, comme on peut avoir des relations aujourd'hui, soit dans le cadre d'un lycée ou d'une université, entre un élève et un enseignant, ou dans une entreprise, entre un ouvrier et son patron. Et il y a donc tout un enseignement, dans Daniel au chapitre 1er, sur les relations entre un ouvrier chrétien et un patron païen, n'est-ce pas ? Non, ça coule de source quand on étudie clairement Daniel chapitre 1. Donc, j'ai tout un enseignement sur l'exercice du métier. Je vais donc utiliser comme mot-clé le mot métier. Vous comprenez ? Parce qu'il est en rapport direct avec le contenu du verset. Dans le contenu du verset, il est question d'un problème qui surgit à un moment donné dans les relations de travail entre un ouvrier et son patron. Comment l'ouvrier chrétien va-t-il réagir ? Que va-t-il ? Vous voyez, hein ? Donc, vous commencez déjà peut-être à saisir un peu le sens de la méthode, hein, qui vous aide à fouiller le texte biblique de manière vivante en vous posant des questions tout à fait pratiques et en épuisant le contenu du verset comme on épuise un citron en le pressant jusqu'à ce qu'on ait le sentiment que pour le moment, il n'a plus rien à nous donner. Peut-être que dans un an, il nous donnera à nouveau, mais pour le moment, on a fait le tour du verset. D'accord ? Bien. Alors j'ajoute, ceci est important, car il ne s'agit pas de construire une concordance extrayant et classant tous les termes d'une même famille contenus dans le texte suivi. J'ai dû barrer, hein. J'ai mis texte suivi aussi chez vous, ou j'ai mis chronologie, parce que ça c'est une erreur, hein. C'est corrigé, n'est-ce pas ? Dans le texte suivi de telle ou telle version de la Bible. Ce serait un travail fastidieux et desséchant qui fait le bonheur des ordinateurs. Il ne s'agit pas simplement de prendre 100 fois le terme écouté et puis le mettre 100 fois en disant « ça y est, j'ai fait une bonne étude ». Ça, il suffit de prendre une concordance pour l'avoir. Donc le but est tout à fait ailleurs. C'est vraiment de faire une recherche intelligente qui ne s'appuie pas simplement sur les mots existants, mais sur les pensées qui se cachent à l'intérieur du texte et qui ne sont pas toujours exprimées dans des mots visibles dans le texte. Et ça, c'est le propre d'une bonne méditation. Vous voyez ? Qui n'est pas littéraliste, tout en voulant serrer le texte de très près, n'est-ce pas ? Qui considère que la Bible est interprétée dans ses mots pleinement, mais que dans l'absence des mots se cache aussi tout un message. Parce qu'il y a quand même tout un contexte, etc. Hein? Alors, ensuite, ce mot, alors on va voir la variété possible, ce mot peut être un nom, propre ou commun. Vous pouvez faire une biographie de Daniel, en mettant peut-être, pourquoi pas, le terme Daniel. Moi j'ai toute une série de fiches dans mon fichier qui s'intitule Jean-Baptiste, où j'ai drainé, si vous voulez, à travers les évangiles, tout ce qui a été dit sur Jean-Baptiste et les textes clés concernant la personne et le ministère de Jean-Baptiste pour avoir la conception de ce qu'était le précurseur de Christ, parce que nous avons rôle d'être des précurseurs de Christ en tant que témoins. Nous ouvrons la voie au Seigneur Jésus. Alors j'ai toute une série de fiches et ça vous donne une vision d'ensemble ensuite sur l'essentiel de la vie, des qualités de caractère, du message et des appréciations au sujet de Jean-Baptiste. Ce mot peut être un verbe, un adjectif, une conjonction de coordination, hein, mais ou et donc ornicar, hein, tous ces petits mots. Cela peut être une conjonction de subordination, si, comme, quand, que, elle est composée de que quoi, dont, où, quand, comment, etc. N'est-ce pas ? J'en avais en quantité là aussi. Cela peut être une expression ou une courte locution. Bon, je sais qu'Alfred Kuhn, lui, s'il devait utiliser la méthode, je sais qu'il utilise les fiches, mais pas forcément exactement comme ça, mais il aurait les uns les autres. Parce qu'il aime beaucoup ce terme, n'est-ce pas, hein, les uns les autres. Eh bien, j'ai une série de fiches, un autre. Vous voyez, j'ai une série de fiches, comment est-ce que c'est exactement, je ne voudrais pas, après ces choses. Parce que vous avez toute une série de textes dans la Bible, qui commence par cette locution « après ces choses ». Et c'est intéressant parce que la locution « après ces choses », c'est une sorte de locution clé, une charnière. Quand on a ces mots, il faut vraiment regarder ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Et on voit qu'il y a tout un enseignement très important pour la vie chrétienne autour de cette idée contenue dans cette locution. Vous voyez, et vous avez toutes sortes de locutions. Et nous devrions apprendre à faire beaucoup plus attention aux petits mots dans les Écritures. Dans la mesure où, bien entendu, ils ne sont pas des bouche-trous, mais où on peut savoir qu'ils sont dans l'original. Parce qu'on a aussi construit parfois, vous savez, sur des virgules qui ne figurent pas dans le texte original, ou des bouche-trous, on a construit des messages un peu dangereux. Hein. Mais je viens de lire un excellent livre de Lannes sur la prédication, remarquable, c'est un auteur qui a écrit aussi un magnifique commentaire sur la vie d'Abraham, et j'ai été très heureux de voir qu'il recommandait aussi fortement d'apprendre à faire attention quand on étudie la Bible aux petits mots, les petits mots clés. Il y a des « mais » dans la Bible. Il y a d'ailleurs un petit livre qui a été écrit il y a pas mal d'années qui s'intitule « Les mais qui comptent ». C'est un livre que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les « mais » dans les Écritures. Les mets qui comptent, je crois que c'est d'Hunziker ou d'un de, en tout cas de Radio Réveil. Ensuite, il faut choisir, donc j'ai donné l'exemple, un autre pour les uns les autres. Important, il faut choisir ce mot-clé très soigneusement. Cela ne pose pas de problème lorsqu'il est indiqué en toutes lettres dans le texte. Mais c'est plus difficile lorsqu'il n'y est pas. Il faudra alors rester le plus logique possible, éviter le tirer par les cheveux, vous comprenez ce que je veux dire, hein, quelque chose qui soit vraiment tangent, hein, vraiment à la lisière du contenu du texte, il faut faire attention. Hein. Il faut que ce soit quelque chose qui, je dirais, jusqu'à un certain point, vous ait quand même sauté aux yeux. Et surtout que cela appartienne à votre langage. Quand je dis logique, il faut que ce soit de sa logique personnelle, si vous voulez. Je vous donne un exemple. Je me souviens avoir un jour prêté ce séminaire avec une mission, avec les ouvriers d'une mission. Donc il y avait là des Français, des étrangers. Et nous avons fait l'exercice de Daniel 1:8. Nous n'avions pas le rétroprojecteur, on a fait ça sur tableau. Et nous avons pris Daniel 1:8, ce que nous ne pourrons pas faire ce soir. Et j'ai dit aux amis, écoutez, simplement vous allez m'aider et nous allons rédiger des fiches ensemble. On va les faire au tableau. Et c'est vous qui allez me suggérer les mots-clés, ensuite les subdivisions, etc. Alors quelqu'un qui est d'origine étrangère a dit, eh bien moi je propose qu'on fasse une fiche manger. Manger. Bon, je lui ai dit, bon d'accord. Je lui ai dit, moi personnellement j'ai mis nourriture, mais après tout, si dans votre forme personnelle de langage, le mot manger vous convient mieux, c'est votre affaire. C'est un fichier qui vous est personnel. C'est pas le voisin qui doit s'y retrouver dans votre fichier. C'est vous qui devez vous y retrouver. Et si vous devez vous gratter la tête pendant 15 jours en vous disant, mais quel titre est-ce que j'ai bien pu donner, n'est-ce pas, en étudiant ce texte à telle fiche, tout simplement parce que vous avez choisi un mot que vous venez tout juste de découvrir, hein. Vous imaginez, hein, je viens d'écrire une circulaire de nouvelles dans laquelle j'utilise un terme, le tarmac. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un tarmac. Bon, 9 personnes sur 10 ne savent pas ce que c'est qu'un tarmac. Le tarmac, il y a le mot mac de macadam dedans. Le tarmac, c'est l'endroit sur un aéroport, si vous voulez, où un avion, après s'être posé, va circuler aux abords du hangar, là où il va déposer ses passagers, etc. Ça s'appelle le tarmac. Bon, alors, vous lisez la lettre circulaire, vous voyez le mot tarmac. Ouh, un nouveau mot pour mon vocabulaire.
Et puis ensuite, vous découvrez dans les Écritures un texte dans lequel vous voyez la possibilité d'utiliser tabernacle. Alors vous faites une belle fiche en utilisant votre nouveau mot. Vous savez ce qui se passe. Un mois plus tard, vous allez rechercher votre fiche. Vous dites, mais pourquoi vous n'avez pas encore assimilé ce mot. Il ne fait pas encore partie intégrante de votre vocabulaire. Donc mieux vaut rester à l'intérieur de son vocabulaire connu. Alors pour certains, ce n'est pas problématique, mais pour d'autres, ça pose parfois de sérieux problèmes. Hein. Restons dans notre vocabulaire. Il faut trouver la fiche, il faut donc pouvoir trouver la fiche ultérieurement dans le fichier sans trop de peine, alors je vous donnerai un moyen de vous y retrouver. Il faut aussi veiller à grouper les synonymes dans un seul mot-clé s'il y a lieu. C'est-à-dire, j'ai toute une quantité de fiches dont le mot-clé est le mot « œil », l'œil. Bon, il y a des mots qui sont ou synonymes ou vraiment de la famille d'eux, très proches. Vous avez le mot « regard », vous avez le mot « vue ». Vous pouvez faire des fiches « vue » et des fiches « regard ». Mais c'est un peu dommage, parce que vous allez devoir regarder dans votre fichier à 36 endroits différents pour avoir des pensées très proches les unes des autres. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis simplement le mot-clé « œil » pour tout ce qui concerne l'utilisation des yeux. Et au début, quand je n'avais pas l'habitude, je mettais à côté, comme il y a un petit « c », comme ici il y a un mot grec, écrit en français, je mettais simplement « regard et vue ». C'est-à-dire que je savais que les autres mots de la famille étaient rendus par le mot-clé « œil ». Vous comprenez ? Donc, vous choisissez le mot-clé qui vous convient le mieux. Et au début, éventuellement, vous mettez à côté les autres synonymes qu'il renferme ou les autres mots très proches. Évitez enfin l'emploi abusif de termes très généraux. Péché, Christ, Dieu, homme. Ça va de soi. Hein, parce que si vous commencez à faire des fiches Dieu pour toutes les fois où il est question de Dieu dans les Écritures, vous vous rendez compte le jour où, et c'est très important, où vous voulez faire une étude, ou présenter une étude, ou partager avec un groupe de quartier, ou avec votre famille quelque chose, sur tel aspect de la personne de Dieu. Mieux vaut utiliser le terme Dieu quand vous avez des textes très spécifiques, très pointus, qui évoquent sa personne. Mais quand il est question du Dieu créateur, mieux vaut parler de création. Quand il est question de la bonté de Dieu, mieux vaut utiliser le terme bonté, et nous verrons alors qu'on peut spécifier qu'il s'agit de la bonté de Dieu en étant bonté, et puis en indiquant par un petit mot, un petit signe, qu'il est question de la bonté de Dieu, et non pas de la bonté de l'homme, ou de la bonté du croyant, ou même de la bonté, de la pseudo-bonté du diable, parfois, n'est-ce pas ? Vous comprenez l'idée ? Dites-moi là où vous êtes bloqué, mais certaines choses sont répétées ultérieurement. Ne les utilisez que pour des définitions très précises qui ne peuvent être mises sous une rubrique plus spécialisée. Exemple, pour Christ, divinité, humanité, sagesse. Et gardez le mot Christ que pour des textes très pointus dans les Écritures où on ne peut pas le rendre autrement. Alors, ensuite, j'inscris le mot retenu sur ma fiche, en haut à gauche, vous le voyez ici, en lettres capitales, d'une couleur bien voyante. B, immédiatement à sa droite, j'ajoute une ou deux précisions de classification si nécessaire. J'ai mis le terme grec, ici c'est très intéressant, je trouve que vous avez en français pratiquement très souvent le même terme serviteur qui est utilisé, alors que dans le texte original vous avez presque une dizaine de termes différents. Et parfois ce sont des termes très très intéressants, n'est-ce pas ? Bon, quand on ne peut pas le faire, on ne le fait pas. Mais pour les étudiants d'institut qui, dans certains cas, reçoivent ce cours, ça peut être très intéressant, n'est-ce pas? Alors vous avez ici, par exemple, l'hyperétès, dans 1 Corinthiens 4.1, et dans le contexte, c'est très intéressant, on se rend compte que le Saint-Esprit, quand il a guidé l'apôtre Paul, ne l'a pas guidé de travers, hein, parce qu'il y a un contexte, et vous voyez, littéralement, celui qui rame sous les ordres de quelqu'un. Vous voyez, le subordonné l'aide, le subalterne, et ça colle tout à fait avec le contexte. Et on peut développer toute une méditation sur un des aspects du service qui est absolument complémentaire à tous les autres aspects. Vous voyez ? Alors quand on peut, on met cette indication. Ici, vous avez métier avec un T, c'est-à-dire du métier dans la vie du croyant. Si c'était le non-croyant, l'homme tout court, j'aurais mis un H. S'il était question, pas pour le métier, mais ou bien le métier du croyant dans sa relation avec Dieu, j'aurais mis un C, une flèche, et puis, bon, on peut mettre le D de Dieu ou le θ, n'est-ce pas? Enfin, il faut choisir, là, sa formule. Je ne sais pas si j'ai mis d'autres indications. Oui, je l'ai mis, j'ai mis plusieurs possibilités. Sens particulier pour des mots comme chair, dans les Écritures, vous avez 4 sens possibles. Alors, c'est bien de différencier. Alors, on peut le faire par un petit numéro. Vous savez, il y a la chair, ce sont les parties molles du corps humain. Il y a la chair, toute chair verra le salut de Dieu, c'est tous les habitants de la planète. Vous avez la chair, c'est-à-dire ce que la maréchale Bousse appelait l'hippopotame moi, n'est-ce pas, la vieille nature, le vieil homme, le vieil Adam, enfin il y a une quantité de termes possibles, mais on sait très bien ce que ça veut dire en nous, n'est-ce pas, hein. Donc vous avez plusieurs appellations. Alors ce qu'on peut faire, par exemple, c'est faire une petite fiche sur laquelle on met chair, et on met 1, première définition, 2, deuxième définition, 3, troisième définition, 4, quatrième définition, et puis ensuite, quand on avance dans son étude de la Bible et qu'on voit le mot chair et qu'on fait une fiche, on peut indiquer si c'est la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième définition, simplement par un petit chiffre. Chacun choisit ses formules. Église locale ou universelle, amour, est-ce que c'est l'amour de Dieu, est-ce que c'est l'amour du Christ, est-ce que c'est l'amour du croyant? Ces précisions doivent être les plus ramassées possibles. Une lettre alphabétique, un signe, des flèches, un symbole. Cela facilitera la photographie de la fiche consultée et permet de gagner du temps, de la place pour l'étape suivante. C'est très important. Vous voyez, je vous disais hier soir que je suis en train de faire toute une étude sur l'écoute dans le livre de Jérémie. J'ai là toutes les fiches faites actuellement sur les 26 premiers chapitres, simplement sur le terme écouter. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a le mot écouter, j'ai fait une fiche, parce que parfois ce sont des répétitions. Quand ce sont des répétitions, j'indique, vous voyez, sur une ligne, toutes les références où simplement le texte est exactement répété. Mais par contre, ce qui est très intéressant déjà actuellement, c'est que quand je compare mes fiches les unes aux autres, je peux déjà très rapidement les classer. Parce qu'il y a déjà toutes sortes de directions très précises qui vont m'aider ensuite à réfléchir quant à la pensée de Dieu sur l'écoute, la mauvaise écoute, la patience de Dieu dans l'écoute, la manière dont Dieu n'écoute pas quand on l'écoute pas, etc. Vous voyez, il y a tout un message, mais qui commence à devenir très clair dans mon esprit, simplement à cause de la rédaction sur tous ces derniers jours, d'un certain nombre de fiches, avec ces petites indications qui figurent en haut, n'est-ce pas? Alors ensuite, c'est toujours en haut, mais dans la partie droite, donc dans cette partie, vous avez ici, une courte phrase résume l'application du mot clé, dans le cadre du verset et du texte analysé. Alors vous avez ici l'exemple, hein, métier, c'est le mot clé. À droite, relation ouvrier chrétien, patron non croyant, priorité à Dieu, mais respect du patron. Parce que c'est une des choses qui transpire du contexte. Quand on analyse, on se rend compte que, d'ailleurs, dans le verset 9, vous savez comment Daniel s'y prend, il n'impose pas, mais il lui propose.
indéfini. Il lui dit, bon, ben, vous allez regarder pendant 10 jours, et puis si au bout de 10 jours ça ne colle pas, ben, d'accord, on sera perdant. Je sais pas. Donc il y a une approche qui est une approche ferme et respectueuse. Donc j'ai sorti une idée, n'est-ce pas ? Prise de position courageuse et respectueuse vis-à-vis d'un patron païen, obéissance à Dieu d'abord, mais sans cesser d'être courtois. Bon, ici vous avez un autre exemple. J'ai un exemple donc que vous avez sous les yeux, 1 Corinthiens 13, 6. Hein, l'amour se réjouit de la vérité ou avec la vérité. Donc je fais une petite fiche avec le mot-clé « amour ». La phrase de droite, son association avec la vérité, vous savez, c'est très important ça. Parce que vous savez qu'il y a dans les Écritures des jumeaux, des triplés, des quadruplés. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, il y a des associations. Bonté, fidélité, foi, espérance, amour, etc. Vous avez quantité d'associations. Et d'associations qui reviennent. Pas une ou deux fois. La bonté et la fidélité, pourquoi est-ce qu'elles vont toujours ensemble dans la pensée de Dieu, dans les Écritures ? Est-ce qu'il y aurait des raisons particulières ? Il faudrait se poser la question. Alors, au début, on ne voit pas ça. Mais quand vous aurez fait 10 fiches, 20 fiches, 30 fiches, 50 fiches, où vous aurez chaque fois comme sous-titre « Son association avec la vérité » ou « L'association de la bonté avec la fidélité », vous allez commencer à vous poser des questions. Vous voyez ? Et vous commencez à entrer dans la pensée de Dieu dans un nouveau domaine que vous n'aviez pas vu jusque-là. Il s'agit en quelque sorte d'un sous-titrage le plus court possible. Toujours la même idée, hein, le plus court possible. Il ne s'agit pas d'écrire un long roman, mais d'essayer de rendre une seule idée. Une seule idée. Ces premières indications, ces premières indications sont séparées du reste de l'affiche par un trait horizontal. Hein, vous l'avez, en général, c'est à deux carreaux, pratiquement, sur les fiches Bristol. Sous ce trait, je copie le verset précédé de ses références. 1 Corinthiens 13, 6, l'amour ne se, etc. Il sera parfois nécessaire de copier deux versets pour la compréhension du texte, mais il faut que ce soit l'exception. Mieux vaut résumer en peu de mots le contexte immédiat. Simplement, vous résumez éventuellement le paragraphe en deux, trois mots. Pour souligner qui est en train de parler, si c'est nécessaire, n'est-ce pas, ou l'aboutissement, si nécessaire. Mais le but, c'est vraiment de s'arrêter sur le verset et de devoir copier un verset à la fois. De temps en temps, deux, quand on ne peut pas faire autrement. Je laisse un court espace sous le verset copié pour en détacher l'annotation personnelle que je vais mentionner. Une réflexion spirituelle, une précision linguistique, une remarque de style, une autre traduction possible, la remarque d'un commentateur, si je suis en train d'étudier un commentaire, avec les références de l'ouvrage consulté de préférence, ça peut servir. Cette annotation est souvent l'occasion d'un enrichissement personnel. Je peux parfois simplement indiquer comment Dieu m'a parlé, comment il m'a interpellé. Vous voyez, là, ça vous permet de rendre concrètement sur le papier, de voir s'exprimer ce qui souvent est pensé dans le cœur. Vous savez qu'on perd une quantité de choses qu'on pense dans le cœur parce que ça ne sort pas par quelque part. Vous savez, le fait d'écrire est très important. Quand je donne des séminaires sur l'organisation pratique du temps, je dis, quand vous faites un emploi du temps, il faut le faire écrit. Quand vous voulez être à jour avec votre courrier, si vous avez beaucoup de courriers, il faut écrire les noms des personnes à qui vous devez une lettre. Parce que quand vous écrivez quelque chose, vous vous sentez beaucoup plus moralement engagé à le faire. Vous savez, ces promesses qu'on donne aux gens, je dois donner le bonjour à un tel, oui, je le ferai. Hein. C'est jamais. Mais si vous le notez, ça, c'est le meilleur moyen de vous sentir engagé, n'est-ce pas ? Ce qu'on écrit nous engage, c'est reconnu, c'est un argument psychologique, pédagogique, et c'est un argument des Écritures. La copie, une fois de plus, dans les Écritures, a beaucoup de valeur. C'est comme on le disait hier soir, hein, le roi qui devait copier le Deutéronome, dans lequel il y a des allusions très directes à l'exercice de la royauté, c'était pas brouillard. Quand il écrivait, il y avait certainement quelque chose qui devait se passer là-dedans, n'est-ce pas ? Et puis lire ensuite tous les jours de sa vie,
On aimerait bien que François Mitterrand en fasse autant, là. C'est une autre chose. Bien. Et donc, vous remarquez, je le souligne, l'aspect que nous avons souligné en introduction, à savoir l'essentiel, c'est que Dieu me parle. Bon, Dieu ne me parlera pas forcément de manière puissante par tous les versets. C'est sûr qu'il y a des versets qui sont beaucoup plus secs que d'autres. Il est évident que si vous prenez le début des chroniques avec les généalogies, ça ira nettement plus vite. Mais il faudra quand même le lire. Parce que vous allez tomber sur des pépites. Vous savez qu'à certains moments dans les chroniques, subitement, il est question d'un personnage à telle ou telle petite pépite cachée dans une énumération fastidieuse de noms. Ensuite, F, à 3 ou 4 carreaux du bas de la page, je trace un nouveau trait horizontal qui permet de réserver une bande, n'est-ce pas, vous l'avez ici, il n'y a pas d'observation ici, j'aurais pu en mettre, plus le verso, pour toutes sortes d'observations ultérieures, références des passages parallèles, notes historiques, archéologiques, précisions reçues au cours d'un enseignement biblique, renvoient une autre fiche, par exemple. Vous seriez en train d'utiliser cette méthode depuis quelque temps. Vous seriez en train d'étudier le livre de Daniel. Vous avez un prédicateur qui passe et qui vous donne une série d'études sur le livre de Daniel. Et voilà que il vous apporte une petite précision d'ordre archéologique ou linguistique ou autre, n'est-ce pas, historique, précisément sur un des versets que vous venez d'étudier. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous prenez note en entendant le prédicateur, ou vous achetez la cassette, ou vous écoutez la cassette, vous rentrez à la maison, vous allez dans votre fichier, vous extrayez votre fiche, et vous pouvez la compléter. Et vous allez avoir, au bout d'un certain temps, une seule fiche sur une idée dans un verset, mais qui va être d'une richesse absolument fantastique. Vous savez qu'il m'est arrivé, par exemple, d'être invité pour présider le vernissage, ce qu'on appelle le vernissage à tort, mais enfin c'est le terme qu'on utilise, d'une exposition de la Bible. Donc on me demandait de faire ce fameux discours, vous savez, où on essaye aussi un peu de donner envie de lire la Bible aux huiles qui sont là et aux invités à la presse. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans mon fichier et j'ai simplement sélectionné un certain nombre de fiches qui traitaient de la Bible sur le plan statistique, anecdotique, etc. Et puis je les ai classées dans un certain ordre avec au crayon numéro 1, numéro 2, numéro 3. J'ai mis ces fiches dans ma poche. Bon, je me suis préparé dans la prière, devant le Seigneur. Et ensuite, devant l'auditoire, j'ai sorti mes petites fiches qui prenaient très peu de place. Et depuis un certain temps, qui m'évitait de perdre tout un temps, n'est-ce pas, à rassembler toute une documentation, n'est-ce pas, je pouvais passer plus de temps à me préparer spirituellement parce que j'avais toute une documentation. Et ceci est l'avantage d'un fichier de ce genre. Quatrièmement, je passe à la confection d'une seconde fiche, puis d'une troisième, jusqu'à ce que j'ai épuisé provisoirement les richesses du verset. Exemple, 1 Corinthiens 13:6, seconde fiche, titre amour, sous-titre sa joie. Vous remarquez que nous avions déjà une première fiche avec le même titre, amour. Mais il se trouve que dans ce verset d'1 Corinthiens 13:6, il est dit « l'amour se réjouit avec la vérité ». C'est-à-dire que l'amour part dans deux directions. Il est associé à la vérité, il est associé à la joie. Donc je peux faire deux petites fiches ayant chaque fois le même mot-clé, « amour », mais un sous-titre différent. Association avec la vérité, mais aussi association avec la joie. Vous comprenez l'idée? Il arrivera sur certains versets de la Bible que vous allez faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, ou 5 fiches avec le même mot-clé, tout simplement parce qu'à partir de ce mot-clé, il y a tout un arc-en-ciel de directions complémentaires dans la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Bon, bien entendu, vous remarquez en dessous, troisième fiche, le mot joie, sous-titre celle de l'amour. Quatrième fiche, l'injustice, parce qu'il est dit plus loin, n'est-ce pas, par contre, il ne se réjouit pas avec l'injustice. Cinquième, le mais, hein, mais, vous avez un axe là au milieu de ce verset 6. Sixième, le mot vérité. Donc le but, c'est de de prendre le verset en respectant la règle de contexte et de le tourner dans tous ses sens possibles. Vous essayez de voir tout ce qu'il vous suggère en respectant le contexte. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis, n'est-ce pas, dans ce texte? Et vous allez peut-être passer une heure sur un verset, mais vous allez tirer de ce verset quantité de bienfaits pour votre vie personnelle. Vous savez qu'il m'est arrivé bien des fois d'être devant ma première fiche et de me dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme fiche sur ce verset? Je ne savais pas par où le prendre. Et puis subitement, par le travail du Saint-Esprit dans notre cœur, ah tiens oui, il y a là une idée. Je fais une première fiche. Quand je suis en train de copier le verset, au moment où je copie le verset, la seconde idée jaillit. Parce que c'est souvent comme ça. Vous écrivez, et en écrivant, Dieu vous suggère la seconde idée qui respecte le contexte. Et de me retrouver au bout d'une heure, en ayant 5 ou 6 fiches, ou plus, alors qu'au début, j'avais l'impression que c'était si difficile. Puis alors ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Parce que vous vous rendez compte que la parole de Dieu est un livre vivant, par lequel Dieu nous parle vraiment personnellement.